Robert Blondin ici, bienvenue à l'aventure. Aujourd'hui, l'aventure du commerce, mais du commerce personnifié par une personne. Je connais cette personne depuis quelque chose comme 63 ans. C'est donc un ami d'adolescence. Je parle du commerce parce que cet homme a été commerçant à peu près la couche aux fesses, j'ai l'impression. Il s'appelle Claude Prévost. C'est un homme qui a fait commerce toute sa vie, qui a réussi. Par exemple, quel genre de vie tu mènes là, maintenant, Claude Prévost? Tu fais plus de commerce, dis-tu, non. Mais tu n'arrêtes pas.
Non, j'arrête pas, mais je charge rien. Ce que je fais aujourd'hui, c'est de la radiesthésie, tout simplement. Et puis, j'ai pris ma retraite à 42 ans. Or, pour me tenir occupé, j'ai été président fondateur des recherches en radiesthésie thérapeutique pour le Canada, les États-Unis et le Mexique. Et j'ai toujours donné j'ai toujours pratiqué sans charger quoi que ce soit.
Parce que tu avais déjà chargé en masse jusqu'à 42 ans, mais pas d'autre chose.
Oui, c'était plus sérieux dans ce temps-là.
Bon. On ne prendra pas de radiesthésie aujourd'hui, parce qu'on risque de s'engueuler là-dessus.
Certainement.
C'est pas vraiment ma tasse de thé.
Non.
Mais on va parler de commerce. Écoute, si tu as pris ta retraite à 42 ans, c'est que tu avais des sous. Donc, on appelle ça une réussite financière. Va pas me jouer le violon, de dire non, pas tant que ça, c'est pas ce qu'on pense, là. Bon, t'es financièrement très à l'aise. Vous vivez très bien, toi et ta compagne Roland. Vous vivez l'hiver au Mexique et en Gaspésie, dans une très belle maison, à Marsouille, l'été. Donc, tu es indépendant de fortune et tu l'as été dès la quarantaine, tu l'étais.
Oui, c'est vrai, mais il faut dire que j'ai jamais dépensé des fortunes. Et puis, si j'en avais besoin, ben, je me disais je travaillerais. Mais quand j'ai vendu ma compagnie, j'avais pas le droit de travailler pendant 2 ans. Alors, je me suis dit, je vais en profiter pour voyager, parce que j'ai toujours aimé voyager. Et puis, c'est simplement ça.
Alors, 42 ans, tu as vendu ta compagnie. On va prendre le temps d'y arriver, la compagnie. On va remonter dans ton enfance. Tu dis toujours, et ça fait toujours sourire autour de toi, que tu as commencé à être commerçant à 2 ans.
C'est vrai.
C'est une menterie ou...
Non, c'est la vérité vraie. C'est qu'à 2 ans, mon père m'avait acheté un bac de sable. Et puis, il m'avait acheté un petit camion avec une...
Une bascule.
Et puis, je vendais mon sable 5 sous à tous ceux qui en voulaient. Alors, au bout d'une semaine, j'avais plus de sable dans le bac. Mon père ne comprenait pas ça. Alors, j'ai dit, bien, j'aimerais ça en avoir d'autres. Il est arrivé avec d'autres. La deuxième semaine, il n'en restait plus non plus. Alors, j'ai expliqué que je vendais mon sable. Et puis, ça a été le début de ma carrière.
Tu vendais ton sable à qui?
À mes amis autour. Il y en avait des jeunes autour. J'habitais sur la rue Sacré-Cœur entre Prieur et dans le temps, c'était le boulevard Kelly, la rue Kelly, qui est Henri Bourassa maintenant. Et puis, il y avait beaucoup, beaucoup d'enfants. Alors, je le vendais mon sable et puis il était content de ça.
Mais ces jeunes-là allaient chercher des sous pour acheter du sable. Les parents ne leur pas dit... T'as pas vérifié les lois du consommateur?
Ben non, mais les parents qui nous donnaient 25 cents par semaine ou quelque chose comme ça, c'était normal. Alors, on pouvait faire ce qu'on voulait avec.
Comment tu convaincs un jeune d'acheter du sable? Il y en a plein chez eux, du sable.
Non, il n'y en avait pas. C'était du beau sable que j'avais. Ben, ça faisait partie, c'était comique, c'était drôle, puis ça faisait leur affaire. Alors, j'ai commencé par ça, ça a été le début. Et puis, à l'âge de 6 ans, il avait commencé à faire de la construction dans Antic de plus en plus. Et puis, les travailleurs arrivaient le matin avec une bouteille d'eau, une bouteille de lait remplie d'eau. Alors, les pintes de lait, dans le temps, c'était en verre. Et puis, ce qui arrivait, ils buvaient parce qu'il faisait chaud l'été. Et puis, quand ils avaient fini de boire à midi, bien, ils avaient besoin d'eau, puis il n'y en avait pas. Alors, j'avais 6 de mes amis de mon âge qui voulaient faire un peu d'argent. Alors, je vendais des bouteilles, si je me souviens bien, c'était 15 sous chacune. Alors, ils allaient chercher des bouteilles, ils les apportaient à la maison. Je lavais les bouteilles, je les remplissais d'eau, puis on leur vendait. Ils vendaient 15 cents, puis ils gardaient 5 cents pour eux, puis 10 cents pour moi. Fait que, ben pour moi, c'était pour laver la vaisselle, ça coûtait cher. Et puis. Alors, ça a été le début de impliquer des amis à faire autre chose.
Et... Ce que tu appelles impliquer des amis à faire autre chose, c'est faire travailler les autres à ton profit.
Oui, mais...
On est chez Karl Marx, là.
Oui, mais je pensais pas ça. Je pensais pas de faire du... Je pensais pas... Je savais pas ce que c'était faire du profit, puis je savais pas ce que c'était de...
Tu savais pas si tu le faisais?
Oui, je le faisais, sans le savoir. J'aimais ça. C'était intéressant. Puis ça me permettait de faire d'autres choses. Alors, évidemment, on n'a pas vendu des bouteilles d'eau pendant 10 ans. On a commencé à organiser des fêtes pour... faire chanter quelqu'un, organiser des choses dans le garage de mon père. Alors, dans le garage, on avait fait comme des chaises, des bancs, là, avec des bandes de bois, puis on remplissait le garage de jeunes, et puis on chargeait une dizaine de scènes, puis on leur faisait des spectacles, puis je vendais des popsicles, parce que dans le temps, il y avait des gros congélateurs. Alors, je faisais des... je mettais dans les plats de glace, je mettais des jus de fruits avec
un bâton.
Un petit bâton, un petit... toothpick. Et puis, on vendait ça pendant le spectacle. Et puis, c'était toutes des choses comme ça, mais je le faisais sans réaliser que c'était commercial, mon affaire.
Ce qui est incroyable, c'est que, regarde, on est dans les 70 avancés tous les deux, là.
Oui, oui.
Et tu te souviens des prix que tu chargeais à 3, 4, 5 ans?
Oui, oui, ça, je m'en souviens.
Des chiffres, des prix.
Oui.
Ça, c'est de l'avoir dans le sang, le commerce, là.
Ouais, mais en tout cas... pour moi, c'était normal. C'était ça. Puis 5 cents, 10 cents, 15 cents, c'était facile de se rappeler. Puis mes employés, entre guillemets, n'avaient pas de difficulté à se rappeler de tout ce que c'était. Alors, ça a commencé avec ça. Et puis, j'étais pas sportif. J'aimais le sport. J'aimais beaucoup le sport. D'ailleurs, je suis encore gouverneur du club Médaille d'or, où on allait chercher des milliers de dollars. Ça existe depuis... J'ai été un des présidents fondateurs.
Pour
les Olympiennes. Oui, pour les Olympiennes. On aidait au financement des athlètes olympiques. Et puis, on fait encore la même chose. Je pratiquais pas de sport. Et puis, mon père était très... de mauvaise humeur à ce sujet-là. Alors, il m'avait acheté des gants de boxe. Et puis, j'avais commencé à organiser des tournois de boxe. Alors, la première fois qu'il est arrivé pour entrer dans le garage, il ouvre le garage, il y avait des cordes installées tout le tour, puis des chaises, puis tout ça. Il rentre, il voit ma mère, elle dit, « Dis-moi pas qu'il a commencé à faire de la boxe. » Elle dit non, elle dit pas lui qui en fait. Il dit, j'en fais faire par sa sœur, puis par d'autres qui veulent boxer. Il leur prête ses gants, puis eux autres, il y en a qui en ont, puis il y en a qui en ont pas, donc il a acheté une autre paire de gants. Alors, ça commence comme ça, et puis je trouve ça tout à fait normal. Puis évidemment, on vend encore des popsicles, puis on vend j'achetais des chips, des gros sacs de chips, que je mettais dans des petits sacs de 1 cent, puis 2 cents. Alors, c'est ça. Mais c'est pas parce que j'avais des talents commerciaux, c'est parce que je non, comprenais rien.
Bien sûr que non. Bien sûr que non. Mais là, l'adolescence arrive, tu continues, parce que moi, je me souviens, quand je t'ai connu, tu avais déjà un passé autour des cartes de souhait, des cartes de Noël, des choses comme ça.
Oui, j'avais commencé à vendre des cartes de Noël, et puis la commission était de 50 %. Alors, à un moment donné, je commence à faire vendre des cartes de Noël par mes amis aussi, parce que je voulais en vendre plus. Et puis, ça allait très bien, très bien.
Alors, j'avais... Des fois, vous faites travailler les autres.
Hein? Bien, c'est parce que je fournissais pas. C'est ça qui était l'affaire. C'est pas parce que j'aurais pas voulu tout faire, mais plus ça allait, plus j'avais de clients, puis plus je voulais pas manquer ma chance. Alors, j'étais parti sur le pouce à Neuville, pour rencontrer le président, j'avais 12 ans à ce moment-là, pour rencontrer le président de Prime de Luxe. Et puis, je demande à le rencontrer. Alors, la secrétaire m'a dit, avez-vous un rendez-vous? J'ai dit non. Est-ce que vous avez... est-ce qu'il vous connaît? J'ai dit, oui, je suis un client. Et puis, il m'a dit, si vous n'avez pas de rendez-vous, moi, j'ai dit, écoutez, je veux le voir. Je suis parti de Montréal pour venir le rencontrer. Fait que c'est là qu'elle s'envoie de rencontrer, puis j'imagine qu'il a dit en riant, il y a un maniaque qui voudrait vous parler. Il me reçoit, et puis je lui dis que j'ai 50 % de profit sur les ventes de cartes, mais que j'ai plusieurs employés autour de moi, et puis que j'aurais besoin de 20 % de plus. Il dit, écoutez, il dit 50 % vous ne trouvez pas que c'est assez? J'ai dit oui, mais j'arrive pas avec ça parce que j'ai des dépenses, puis il faut que je les paye, puis ça ne m'intéresse pas. En tout cas, on jase une grosse demi-heure, ça, je me souviens de ça. Puis, en fait, je suis convaincu qu'il trouve ça drôle. Et puis, il dit correct, il dit je vais vous l'accorder. Alors, à ce moment-là, il me dit, comment vous êtes venu ici? J'ai dit, je suis venu ici sur le pouce. Et puis, j'ai dit, il dit, combien de temps vous avez encore avant de retourner? Mais j'ai dit, j'ai à peu près une heure de jeu, là, parce qu'il faut que je retourne de la même façon. Il dit, faites ça, puis on vous... Il dit, attendez une minute. Il téléphone à sa femme. Il dit, as-tu du gâteau au chocolat? Elle a dû lui dire oui. OK, je vais t'amener quelqu'un, puis on retourne. Alors, il m'amène chez lui, qui est à quelques pas de sa manufacture. Et puis, je suis reçu manger du gâteau au chocolat, boire un verre de lait, tout ça, puis je suis content, parti. Alors, à partir de ce jour-là, j'ai toujours fait affaire avec des présidents d'entreprise et des présidents de conseil d'administration. C'était point final.
En bas de ça?
En bas de ça?
C'était pas pour toi?
Non, c'était pas pour moi. C'était juste ça. Alors, ça a été ça. Et puis...
Et comment ça commence à fonctionner? Après ça, tes ventes de cartes, ça a grimpé?
Bien, ça a plus que doublé. Puis après ça, ben j'avais commencé à faire affaire avec deux autres compagnies qui étaient les plus gros fabricants de cartes de Noël et puis de cartes de souhait au Québec. Et puis, j'avais procédé de la même façon avec les présidents, parce que je faisais affaire juste avec des présidents. Et puis, il avait accepté. Les deux autres compagnies avaient accepté.
Parce qu'ils te trouvaient cute à 12, 13, 14 ans de faire ça, là?
Bien, je négociais sérieusement, puis probablement que... eux réalisaient quel âge j'avais. Moi, je ne le réalisais pas. C'était comme ça que je voulais ça. Puis, j'étais sérieux. Puis, ça fonctionnait. Et ça m'a aidé énormément. Ça a été le début, ça.
Ça te mène au collège Saint-Laurent, où on s'est connus à l'époque?
Oui. Bien, ce que j'ai fait compléter une sixième année j'ai été premier de classe presque 80, au moins 95% du temps entre la première et la sixième année. À la sixième année, ça nous permettait d'aller au... si on s'en allait faire un cours classique, on pouvait s'en aller tout de suite en élément latin. Alors, j'arrive en élément latin au Collège Grasset, c'est mon père qui avait décidé que je ferais un avocat. Alors, j'arrive au Collège classique, puis par erreur, au Collège André Grasset, puis par erreur, j'arrive premier de classe 3 mois de temps. Alors là, je suis pas de bonne humeur parce que ça nuit à mon commerce. J'ai pas le temps de pratiquer mes affaires. Alors, je décide d'arriver dernier. Alors, le mois de janvier...
Pour pouvoir quitter le cours.
Oui, je voulais me faire mettre à la porte du collège. Puis, vu que j'étais un bon gars, c'était pas le genre pour me battre, puis... écœurer qui que ce soit. Alors, j'ai tout simplement décidé d'arriver dernier. Malheureusement, j'ai manqué mon coup, je suis arrivé avant-dernier. Puis là, ben, je me suis fait questionner, évidemment, qu'est-ce qui se passait, puis qu'est-ce qu'il y avait. Puis j'ai dit, écoutez, ça nuit à mon commerce, je veux pas, puis mon père veut que je fasse un avocat, ça m'intéresse pas. Si j'en veux un avocat, j'irai en rencontrer un. Alors, j'ai réussi à me faire mettre à la porte gentiment, puis j'ai jamais compris... La deuxième année, mon père me rentre en syntaxe au séminaire Sainte-Thérèse. Alors, comment je monte en syntaxe quand je n'avais pas fini mon élément latin? Alors, la même chose, mais là, à ce moment-là, on a des prêtres qui sont nos...
directeurs
de conscience, c'est ça. Alors, moi, je dis à mon directeur de conscience, écoutez, je veux pas faire de cours classique, ça m'intéresse pas. Oui, mais il dit, écoutez, vous avez l'air bon, puis bon, OK. Alors, la même chose, même histoire. J'arrive, je décide d'arriver dernier. Ça change pas l'affaire. Je continue. Tous les mardis, quand je suis pas en pénitence, je m'en vais sur le pouce à Ottawa pour assister aux rencontres du gouvernement. Le jeudi, je m'en vais sur le pouce à Québec pour aller voir qu'est-ce qui se compte au gouvernement provincial.
Thank you. L'aventure de Claude Prévost, qui est une aventure d'un commerçant qui a réussi, qui a très bien réussi, mais dont le commerce coule dans les veines depuis sa naissance. On l'a laissé il y a quelques minutes à son cours classique qu'il veut absolument laisser parce que ça dérange ses affaires. Alors, même pendant ton cours classique, là où je t'ai connu, entre nous, entre étudiants, tu avais encore un commerce.
Ben oui, je pouvais pas arrêter. C'est pas le cours classique qui m'intéressait, ça m'intéressait pas. Mais là, au Collège Saint-Laurent, je ne sais pas comment ça se fait, j'étais rendu en versification, et puis j'avais pas fait mon élément latin, j'avais pas fait ma syntaxe, j'avais pas fait ma méthode, puis mon père avait réussi. Je voulais pas, je finissais pas mes années, je faisais 2, 3 mois, 4 mois. Puis là, mon père m'avait rentré en versification au Collège Saint-Laurent. Comment? Je ne sais pas.
Sans doute.
Oui, ben, ouais, peut-être. Et puis, la même chose, mais là, je me fais mettre en retenue. Donc, ça me coupe un peu mes rencontres à Ottawa puis à Québec. Mais quand même, je fais mes retenues, bien tranquille. Puis à un moment donné, c'est le directeur du cours commercial qui s'occupe des personnes en retenue. Alors, il s'en vient me rencontrer, puis il dit « J'aimerais ça vous voir à mon bureau après. » J'ai dit « Correct. » Alors, je finis mon heure ou deux heures de retenue, puis je m'en vais le rencontrer. Il dit « Écoutez, il dit, vous avez l'air d'un élève bien tranquille, vous êtes poli, vous êtes calme. Qu'est-ce que vous faites en... » J'ai dit « Écoutez, mon père veut que je fasse un avocat, il veut que je fasse un cours classique, il faut que je fasse un cours classique. Puis moi, j'ai mon commerce, puis ça nuit à mon commerce. » Alors, il me dit, ouais, mais il dit, qu'est-ce que vous voudriez? Ben, j'ai dit, seriez-vous capable de me placer au commercial? Il dit, on ne peut pas, après la syntaxe, il dit, c'était l'élément où la syntaxe, il ne pouvait pas nous passer du cours classique au cours commercial. Alors, rendu en versification, il n'y en était pas question. Mais il dit, si jamais on faisait ce que vous vouliez, si on vous mettait à la porte, puis que je vous donnais tous les livres qu'on a au commercial, qu'est-ce que c'est que vous feriez? J'ai dit, je serais tellement content de pouvoir les étudier que je commencerais tout de suite en arrivant à la maison. Il a dit, correct, laissez-moi penser à ça. Alors, évidemment, il voulait en parler à mes professeurs ou au directeur, je ne sais pas. Alors, en revenant, une couple de jours après, il s'en vient me rencontrer, il viendrait me voir. Il dit, avez-vous toujours la même idée? J'ai dit oui. J'ai dit, je veux pas faire de cours classique. Ça m'intéresse pas. C'est pas que c'est pas intéressant. Parce que j'avais trouvé le moyen de faire des bonnes affaires au cas où j'avais acheté des documents en grec et en latin. Et je vendais à mes amis des devoirs bien traduits, pas de faute.
Aidé, mais tu nous as coûté cher.
Oui, mais c'était payant. Ça fallait que ça me paye un peu. Et puis... mais j'arrivais dernier, donc c'était pas moi qui faisais ça. Et puis, ça a été ça.
On va accélérer un peu, Claude. Bon, à un moment donné, tu vas quitter le cours classique et tout ça.
Oui.
Tu vas t'en en affaire. Ce n'est plus uniquement des cartes de souhait et de Noël, là.
Non.
On est dans d'autres choses.
Oui, on vendait...
Il faut dire qu'au collège classique, à l'époque, on avait tous des vestons, des blazers de marin et l'écusson brodé à l'effigie du collège où on étudiait.
Voilà.
Toi, tu as vu qu'il fallait payer ces choses-là, alors tu dis non, moi, je veux en vendre.
Exactement.
Hein? On part de là?
Oui, OK. Alors, les écussons brodés, j'avais commencé à en vendre. Et puis, après 2 ans ou 3 ans, j'avais 95% de toutes les communautés, tous les collèges et couvents.
Mais tu les fais faire, c'est ça?
Oui, je les faisais faire.
Tu prends un monopole pour les vendre. Tu deviens intermédiaire, finalement.
Oui, puis j'allais les acheter en Suisse. Alors, oui, c'est ça. Et puis...
Tu as 16 ans, non?
16 ans, oui, puis j'avais acheté une auto aussi. Mon père me disait, ça se peut pas, t'as pas le droit, tu sais, il était coursier d'assurance agréée. Et puis, j'ai dit oui, mais j'ai dit l'auto n'est pas à mon nom. J'avais un ami qui venait de se marier à 18 ans. Et puis, j'avais demandé s'il mettrait l'auto à son nom. Il l'avait fait. Puis, j'avais acheté l'auto, 75 $. Et puis, mais on n'est pas dans, on n'est pas en 2019. Là.
On s'est promené pas mal dans cette auto-là.
Oui, pas mal, pas mal. Oui. Et puis, c'est ça. Alors, ça a été pas mal bon. Les cinq provinces de l'Ouest, alors l'Ontario, Québec, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Terre-Neuve, c'était... j'avais toutes les communautés, 95%.
Ça, c'est parce que tu as fait des pitchs de vente là, à ces communautés-là. Là.
Oui.
Pourquoi ils choisissaient toi plutôt qu'un autre intermédiaire pour acheter des écussons?
C'est parce que j'étais le seul à me présenter partout. Alors, c'est moi qui allais à personne.
T'es un vendeur incroyable.
J'aimais ça, j'aimais ça. Et puis, ça, j'aimais voyager. J'aime encore voyager à mon âge, 78 ans. Et puis, je voyage encore. J'ai une auto au Mexique, j'en ai une ici, puis je me promène continuellement. Je suis à Montréal, là, puis j'arrive de Gaspésie, puis je retourne en Gaspésie après qu'on se soit parlé dans... Après la fête des Prévôts, et puis après ça, c'est ça. On est rendu en Gaspésie, ben on fait le tour de la Gaspésie, on va à toutes sortes de places.
Ça, je l'ai fait avec toi dans tes ventes d'écussions. Non, mais à un moment donné, tu vas passer, ça va évoluer.
Oui.
Les écussions, le marché des écussions va s'agrandir.
Le marché des écussions s'agrandit, puis en plus de ça, c'est que je commence une compagnie de sérigraphie. Alors, comme je ne sais pas dessiner et que je ne sais pas imprimer, il faut que j'ai deux employés. Alors, un qui est dessinateur et un qui est imprimeur. Alors, mon père me loue une pièce sur la rue Fleury, près de Saint-Laurent. Et puis, je commence à faire mes impressions, parce que je suis obligé d'avoir les deux employés. Puis, il me prête 60 $ canadiens. Alors, ça a été le début de mes affaires.
T'as et puis, quoi?
Des autocollants.
Qui
servent à... Ben pour mettre dans le temps les autocollants, ben, on en faisait. Ça existe encore partout dans les vides d'auto, mais graduellement, ben je faisais les autocollants pour ou la sérigraphie, les affiches sur les autobus, les affiches dans le métro plus tard, tout ce qui était sticker en bon français.
Tout ce qui collait.
On en fait. C'est ça. Et puis, l'autre affaire, c'est que j'avais à un moment donné comme client tous les partis politiques, sans exception. Alors, le premier ministre du temps, Pierre-Éliott Trudeau, m'avait demandé pour faire une badge collante. C'est-à-dire une badge en plastique, parce qu'il en avait besoin d'1 million, et puis il ne pouvait pas le faire.
C'était pour sa campagne à la chefferie.
Ben c'était, je ne me souviens pas exactement. Oui, c'était ce peu. Alors, j'avais fait quelque chose, puis on mettait une épinglette à l'arrière avec un scotch tape. Mais c'était pas à mon goût. Je voulais quelque chose qui ressemblait à une badge métallique. Alors, le plus gros fabricant d'écussons métalliques qu'on voit encore aujourd'hui, c'était aux États-Unis. Il en fabriquait 125 000 par semaine. Alors, je trouve un moyen, par erreur, que je faisais. Je disais toujours à mes employés, là, je te rendais avec plusieurs employés, je leur disais, bien, essayez donc telle affaire. Puis ils me disaient, bien non, c'est pas comme ça que ça se fait. Mais essayez ça. Et accidentellement, on fait un écusson qui ressemble tellement à une plaque métallique que j'ai dit, bon, c'est ça que ça nous prend. Alors, je l'ai fait breveter dans 15 pays. Et puis, on en fabriquait pas loin d'1 million par semaine dans certaines semaines. Et puis, c'était beaucoup moins cher que l'écusson métallique. Et puis, on pouvait en faire n'importe quelle forme, n'importe quelle.
Tu as fait toutes sortes de choses, parce que pour les partis politiques, quand on pense au congrès politique de chefferie, par exemple, on voit ces affiches, ces colifichets, tu as tout fait ces choses-là.
Oui.
Mais cette badge qui a l'air métallique et qui est autocollante, ça, c'est ton produit qui t'a vraiment lancé en affaires sérieusement.
Bien, très sérieusement, mais je l'étais déjà, parce que en commençant en affaires, c'est-à-dire une compagnie enregistrée, il fallait que j'aie 18 ans, alors j'avais pas le choix. J'avais acheté une compagnie à 18 ans, puis j'en avais commencé une. Alors, je commence à fabriquer, et puis ça a été ça. Ça a été... d'inventer
là,
différentes choses.
Autant pour le Parti libéral du Canada que pour les Hells Angels, toi.
Bien, moi, ce que... ouais. Tous les partis politiques, ce qui est arrivé, c'est qu'avec les chefs de parti, les premiers ministres, les chefs d'opposition, j'avais toujours dit, une pièce, c'est une pièce, lundi, c'est lundi. Je veux pas de fling-flang, je veux pas de quoi que ce soit, c'est ça. Et puis, tout le monde l'avait accepté à un moment donné. Graduellement, ça avait été accepté partout, parce que de cette façon-là, bien, il n'y avait pas de risque. Alors, tout le temps que j'ai été en affaires, il n'y a pas eu de... il n'y a rien de négatif à ce point de vue-là.
Autrement dit, tu as mangé à tous les râteliers sans considération politique ou
non,
morale
non,
ou juridique ou quoi que ce soit.
Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout.
Une affaire, c'est une affaire.
Exactement. J'ai été en cours 4 fois dans 20 ans. Contre dans certains cas, puis j'ai gagné les 4 fois, puis moi c'était...
Pour faire autant de produits, des millions par semaine, ça prend un endroit. Je veux que tu me comptes comment t'as acheté cette espèce de grande usine où t'as installé tes équipements et t'as fait affaire. C'est spécial.
Oui, c'est spécial, c'est que j'avais besoin d'un couteau pour
le
couteau industriel,
les cartons,
c'est
les
ça.
Cartons, ça.
Et puis je partais à l'après-midi à 5 heures pour la Floride. Et puis vers midi, il y a un de mes fournisseurs qui arrive, puis il dit que l'autre, il dit t'as une possibilité, il y a une compagnie qui vient de faire faillite. Et puis, il y a un superbe couteau à l'intérieur. Puis, il dit, faut que tu vois ça, il est flambant neuf. Puis, il dit, tu pourrais faire un œuf dessus. J'ai dit, écoute, j'ai pas le temps. Mais il dit, on va y aller tout de suite. Alors, on s'en va là-bas. Je vois le couteau qui est absolument mieux que ce que je rêvais d'acheter. Alors, je fais un œuf de 15 000 $. Je m'en vais chercher. J'avais besoin de donner 20 % de dépôt. Alors, je m'en vais chercher un chèque certifié à la banque et puis je demande à ma secrétaire de faire préparer l'offre de 15 000 $ pour ça. Quand je reviens au bureau, je regarde l'offre, puis l'offre est faite pour toute la compagnie. J'ai dit, ça n'a pas de bon sens, mais j'ai dit, en tout cas, je vais aller voir le huissier en m'en allant à l'aéroport et puis je vais dire de modifier ça. Simplement.
Oui, c'est juste le couteau que tu veux. Là. Tu veux pas
c'est le couteau que je voulais. Bien, l'usine, je ne pouvais pas acheter ça. C'était 4 fois ou 5 fois plus grand que ce que j'avais au coin d'Iberville et Sainte-Catherine. Alors, on s'en va là. J'arrive chez l'huissier. La porte est barrée. Il est parti dîner. Alors, je prends ça, je mets ça dans l'enveloppe, puis je lance ça en bas de la porte. Il y a de la place pour passer l'enveloppe. Et puis je me dis, ben tant pis, en revenant. Et puis le vendredi après-midi, le vendredi suivant, je suis en Floride, et puis mon comptable m'appelle et dit, l'autre, qu'est-ce que c'est que tu as acheté? Je dis, qu'est-ce que c'est que j'ai acheté? Ben il dit, t'as acheté pour 15 000 $. Ah, j'ai dit, c'est un couteau que j'ai besoin, puis j'ai dit, je l'ai-tu? Il dit, c'est pas le couteau que t'as, c'est toute la compagnie. J'ai dit, comment ça, la compagnie? Bien, je ne sais pas, mais il dit, t'as toute la compagnie pour le 15 000 $. J'ai dit, ça se peut pas. En tout cas, je reviens demain, j'irai lundi. Alors, le lundi, je m'en vais avec mon vice-président. Et puis, on s'en va voir ça. C'est immense, ça n'a pas de bon sens. Puis, je viens pour... j'ai dit, en tout cas, il faut que je trouve une bâtisse. Faut que je veux pas louer la place où ils sont, ça m'intéresse pas. Alors, je cherche une bâtisse. J'en trouve une. Wartell, près de Sherbrooke. Et puis, il me demande 350 000 piastres. Alors, je dis au responsable de la vente, j'ai dit, écoutez, ouais. Alors, j'ai dit, écoutez, je vais vous faire un offre de 75 000. Là, il est de mauvaise humeur, il me tombe dessus, ça n'a pas de bon sens, il n'y en a pas question. J'ai dit, écoutez, vous êtes agent d'immeuble, vous allez présenter au propriétaire ma demande de 75 000. Il grogne, mais j'ai dit, écoutez, vous n'avez pas le choix. Fait que, il est obligé de la présenter. Le lendemain matin, le propriétaire m'appelle, l'agent d'immeuble m'appelle et dit, le propriétaire veut vous rencontrer. Alors, je suis allé rencontrer le propriétaire. Très jolie maison, il est avec sa femme. C'est pas un pauvre propriétaire. Alors, c'est là qu'on s'entend. Et puis, finalement, il dit, vous n'êtes pas capable d'en mettre un peu plus? Ben, j'ai dit, peut-être 5 000 de plus, mais j'ai dit, je sais pas si la banque va me le prêter. Ben, il dit, mettez-en un petit peu plus. Alors, je fais un offre final de 85 000. Il dit, c'est correct, mais je vous donne 10 jours. C'est parfait, merci, ça me fait plaisir. Je vais essayer d'avoir ça.
Encore une aubaine pour t'aider parce que ça a été payant, cet achat-là.
Plutôt, oui. Ça m'a aidé à prendre la retraite. Mais ce qui est
arrivé... Parce que quand t'as vendu, tu l'as vendu vraiment plus cher que ça.
Oui. Mais aujourd'hui, c'est le pavillon Aurel Daou, ça a eu worth it. Mais...
Donc, Claude Prévost, en affaires, tu as été particulièrement opportuniste. Tu as vu les choses, les possibilités poindre à l'horizon et tu n'as pas hésité à foncer dessus. Tu as beaucoup basé tes grands succès financiers, d'affaires, de commerce, sur cette façon de voir rapidement les choses à faire.
Je dirais pas voir, je dirais deviner. Parce que je peux pas dire que j'avais de l'expérience en affaires. Ben j'en avais, mais je ne le savais pas. Et puis, c'est pas parce que j'avais étudié en affaires. Je ne sais pas. Il me passait quelque chose en tête, je le faisais, je l'essayais. Puis, je peux pas dire que j'avais de l'argent. J'avais des valeurs, mais quand une compagnie monte en flèche, en tout cas, dans ce temps-là, on n'avait pas de l'argent qu'on a besoin. On est obligé d'attendre que les clients nous payent. Et puis, plus il y en a qui retardent, bien, plus moins on a d'argent comptant. Puis avoir 10 000 piastres, la banque, dans le temps, c'était comme... fallait quasiment se mettre à genoux, puis broyer.
Tout ce qu'on a compté au début de l'émission et tout à l'heure, avant la pause... l'achat de l'usine, l'accompagner au complet, tout ça. T'as quel âge, là?
J'ai eu 25-30 ans, puis 35 ans au plus. J'ai pris ma retraite.
Mais un jour, bon, cette compagnie-là fonctionne très bien, tu as beaucoup de succès, tu as des relations à travers tout le Canada.
Oui, ça, j'en avais beaucoup.
Beaucoup de relations, tu es un relationniste expert.
Oui.
À un moment donné, tu vends.
Oui.
Pourquoi tu as vendu?
Ben, je ne voulais pas vendre. D'abord, ma compagnie était rendue dans sept pays. Et puis, aux États-Unis, j'avais 50 concessionnaires. Alors, c'est une compagnie américaine qui me fait une offre pour acheter ma compagnie. Alors, je suis pas intéressé, mais je pense à mon affaire. Puis je dis, ça me ferait un congé. Ça faisait quand même pas loin de 40 ans. Là, ça me faisait 39 ans que j'étais
en
affaires. C'est ça. Alors, j'accepte la proposition à une condition, c'est qu'ils me paient en argent comptant, qu'ils me mettent ça, puis que je vais leur donner un maximum d'une boîte d'un pied par un pied par un pied de documents, puis ils s'arrangeront avec la balance. Ils acceptent parce que ce qui est arrivé, c'est qu'ils voulaient ils voulaient produire les écussons et puis ce que j'avais avec des brevets. Alors, il était pas capable de les produire parce que c'était breveté. Alors, il pouvait pas produire sans avoir le brevet. Alors, ils ont accepté, mais j'ai dit, écoutez, vous déménagez pas à compagnie, là. Ils ont dit, on va faire ce qu'on veut avec. Et la semaine suivante, ils étaient rendus à Ottawa, à compagnie. Puis, un mois plus tard, ils étaient rendus aux États-Unis. Demandez-moi pas ce qu'ils ont fait. C'était pas légal, mais en tout cas, ils l'ont fait pareil. Alors, il m'avait demandé si je voulais continuer avec eux autres. Je lui ai dit jamais. Non, pas une scène, pas une minute. Mais dans le contrat, je n'avais pas le droit de travailler pendant 2 ans, dans quoi que ce soit. Alors, je me suis dit, bon, je mérite 2 ans de congé, là, après avoir ça. Puis, je recommencerai à travailler après. Puis, c'est là que j'ai commencé à développer ma radiesthésie, puis à commencer à faire des traitements. Quand je voyais quelqu'un qui avait de la misère à marcher sur la route, puis quand je voyais un aveugle qui ne voyait rien, j'offrais de rendre service, puis
c'est ça. Ta compagnie, tu l'avais commencé seule, mais c'est vraiment une œuvre solitaire. Ton père t'a aidé pour quelques dollars au début, puis en loin
60, local. 60.
Quelle était la part ou quelle part t'a laissé à la famille dans ton entreprise? Ton père, tes enfants, parce qu'ils ont été mêlés, puis sont retirés. C'est quoi exactement qui s'est passé?
Bien, mon père avait sa compagnie d'assurance, puis à un moment donné, il y a eu une fraude qui a donné énormément de difficultés. Il est venu travailler pour moi. Et puis, il voulait que je fasse ce qu'il voulait, mais ça ne m'intéressait pas. Je voulais qu'il fasse ce que je voulais. Et puis, il a démissionné, il s'est en allé travailler pour un compétiteur, puis il est revenu au bout d'un mois parce que ça ne marchait pas. Alors, ça a été ça. Les enfants, ben, mon fils et ma fille, j'avais essayé de les avoir, mais ils étaient pas mal jeunes dans le temps. Et puis, il n'y avait pas l'âge pour acheter encore. Puis à un moment donné, je leur avais dit, bien, si vous voulez acheter, je vais vous la vendre. Vous n'avez pas d'argent à me donner, mais il va falloir que je vous dise quoi faire si vous ne faites pas quelque chose de correct. Alors, ça ne les intéressait pas. Alors, ça a réglé le problème. C'est comme ça que j'ai vendu la compagnie pour beau, bon, pas cher, mais les brevets n'étaient plus dans la compagnie. Alors, ça a été ça. Puis la compagnie était rendue dans 7 pays. J'avais 2 compagnies, Crestomatic et Badgeco. Alors, Badgeco était dans 7 pays. Puis c'était juste des brevets. Alors,
t'as fait surtout ta fortune avec à cause des brevets?
Pas ma fortune. Je n'ai pas de fortune. Mais les brevets ont aidé beaucoup. Mais aussi, la façon de produire qu'on avait dans le temps, on avait de la compétition beaucoup. Je me souviens que la famille Parizeau avait voulu acheter, puis je n'étais pas d'accord. Alors, je ne voulais pas vendre. C'était pas ça. C'était pas en compagnie que je voulais vendre. Mais finalement, quand les Américains m'ont fait une offre, ben, ça valait la peine d'essayer. Mais encore une fois, c'était pas...
C'est un phénomène qu'ont connu beaucoup de Québécois qui ont réussi en affaires, puis qui finalement ont vendu à des Américains en encaissant des profits considérables qui leur permettaient de rester tranquilles et très, très à l'aise pour le restant de leurs jours. Ça s'est beaucoup produit au Québec, ça.
Bien, je dois avouer que c'était pas des millions. J'ai pas vendu à des prix extraordinaires, là. C'était pas trop mal. Mais j'ai eu la chance dans ma vie d'acheter plusieurs propriétés et de les revendre. Dans le temps, on pouvait faire 5 000 ou 10 000 piastres de profit.
On parle d'immobilier ici.
Oui.
Tu as beaucoup fait d'immobilier à travers ces...
J'en faisais parce que, d'abord, pour ma compagnie, j'achetais autant que possible. C'est-à-dire la première, pas la deuxième, j'avais loué. Mais la troisième, Iberville-Sainte-Catherine, le propriétaire m'a dit, veux-tu acheter la propriété? J'ai dit, écoutez, je ne suis pas capable. Il dit, je vais te montrer quelque chose. C'est de la façon que tu agis en affaires. Il dit, je vais aller te montrer ça. Alors, il vient me montrer. Puis, il arrivait toujours avec une vieille auto écrasée. Il y avait toujours des gilets avec des trous d'un coude, ce qui n'était pas en mode dans le temps. Et puis, il avait l'air pauvre, puis il venait collecter. Mais je le trouvais super sympathique, puis brillant dans son affaire. Et là, il s'en vient me montrer comment faire, puis quoi faire. Il dit, je vais te la vendre. Oui, mais j'ai dit, j'ai pas eu moyen d'acheter ça. Il dit, tu me donneras ce que tu voudras. J'ai dit 5 000 pièces. Il dit, correct. Fait que j'ai commencé, j'ai donné 5 000 de dépôt, évidemment. La balance, bien, je l'ai... j'avais une hypothèque. Et puis, mais il s'en vient me montrer qu'est-ce que c'est qui y appartenait. C'était, c'était encore des petits châteaux. Il m'amène chez lui à Laval. Il y a une limousine dans son entrée. Une mosaïque de belle maison qui n'était pas un cadeau. Et puis là, je m'aperçois, c'est pas le même gars que celui qui me vend. Alors, il m'a vraiment aidé à voir le côté comment procéder dans les achats. Alors, en général, j'achetais une maison avec un dépôt de 500 pièces ou le maximum 5 000.
Tu jouais low profile, tu jouais presque au pauvre. Je t'ai vu faire, moi.
Bien, je suis encore pauvre.
Oui, c'est sûr.
Non, mais ça me donnait absolument rien de jouer aux riches.
Donc, tu as pu faire des profits intéressants à partir de l'immobilier, acheter des maisons, les revendre.
Oui, oui, oui.
Du domiciliaire, là.
Oui, du domiciliaire, puis
du commercial,
puis du commercial résidentiel et puis industriel.
Ces entreprises que tu as eues, nécessairement, il y avait plusieurs employés. Ta relation avec le milieu du travail, des gens qui travaillaient pour toi, ils étaient syndiqués ou pas?
Non, c'est-à-dire qu'ils se sont syndiqués juste au moment où je vendais. À peu près, moi, je dirais 3 semaines, 1 mois d'avance, quand il y en a qui ont vu que j'étais après changé, mais il n'y avait pas de syndicat. J'ai eu la chance, étant donné mon manque d'expérience dans à peu près tout, j'avais engagé des vice-présidents de très haut niveau d'entreprise à travers, au Canada, en Italie, en France, en Australie et Nouvelle-Zélande. C'était des gens, puis au Canada aussi, des gens de très, très haut niveau qui avaient presque le double de mon âge à ce moment-là, et puis qui me disaient, sans se connaître, ils m'avaient tous dit la même chose, on va te dire qu'est-ce qu'on pense, je vais te dire qu'est-ce que je pense, mais tu décides parce que c'est ta compagnie. Alors, ils savaient que j'étais pas lié avec eux autres, puis ils pensaient que je dirais oui n'importe quand. J'ai dit, c'est correct, je suis d'accord. Bien, 90 % du temps, au moins, je le faisais, je faisais ce qu'ils me disaient. Et ça m'a aidé parce que c'était des gens qui avaient qui étaient dans des compagnies à très haut niveau.
Donc c'était des adjoints, si on veut, ou de l'aide précieuse pour toi?
Bien, mon premier vice-président que j'ai engagé, c'était le vice-président de la presse qui venait de prendre sa retraite, que je connaissais intimement.
Tu savais lui profiter de l'expérience?
Après ça, il y a eu...
Est-ce que tu as eu des conflits de travail avec tes employés?
Non, jamais. Une fois, quelqu'un qui était supposément sur le BS, pas supposément, qui était sur le BS, mais que j'avais découvert qu'il avait 3 emplois, il travaillait de jour, de nuit et ça, mais c'est pas lui qui allait travailler, c'était ses enfants qui allaient juste surveiller qu'est-ce qui se passait. Et puis quand il a découvert que j'avais ça, il avait voulu me sacrer une volée, mais j'en ai donné une, moi je l'ai mis à la porte. Ça a réglé le problème, mais c'est la seule fois, j'ai jamais eu de problème avec les employés, je les respectais, puis ils en savaient plus long que moi dans n'importe quoi.
Je voudrais que tu me parles d'une de tes passions. Moi, quand je t'ai connu, ça n'a pas été long. Dès que tu as eu 16 ans, tu avais une auto. Tu avais la
Ouais.
passion de l'auto. Tu n'avais même pas l'âge, puis tu avais une auto au nom de quelqu'un qui avait 18 ans.
Ouais.
Tu as eu combien d'autos dans ta vie?
Ben, celle que j'ai au Mexique actuellement, c'est ma 75e. Mais les pères de mes amis me prêtaient leur auto pour aller faire des tours avec leur fils, mais ils ne voulaient pas que leur fils conduise leur auto. Alors ça, j'en
T'es
ai
le petit gars
conduit.
parfait. Je sais de qui tu parles, pas de mon père Fabien. Je connais ça.
J'ai pas osé
Oh
dire
oui.
ça, là.
Oh, combien. Mais c'est ça, cette pomme d'affaires de 15 ans ou 16 ans ou 17 ans avait l'image du gars qui pouvait pas faire de bêtises puisqu'il était en affaires.
Non, c'était pas ça, c'est parce que.
Va-t'en donc.
Jamais. Bon, regarde bien. Très, très jeune, en bas de 25 ans, il y avait 4 compagnies et 4 manufactures manufacturiers de bière au Québec. Molson, bon, tard, puis, bon, en tout cas, j'avais les 4 compagnies comme clients. Je ne buvais pas de bière. Quand j'étais souvent invité à des réceptions, il m'arrivait toujours avec un verre de ginger ale pour que j'aie l'air d'un gars qui buvait de la bière. Alors, ce qui m'aidait probablement, c'est qu'ils savaient que je n'étais pas un maniaque de leur opposition ou de leur compétiteur. J'en prenais pas de bière. J'ai commencé à prendre de l'alcool à 30 ans, mais très peu. Puis j'ai arrêté à peu près à 70 ans. J'en prends pas. Je ne dis pas que je ne prendrai pas 2, 3 gouttes de vin de temps en temps, mais pas un verre de vin, là.
Moi, je vais revenir aux autos, l'émission avance. Tes grands souvenirs de tes autos que tu as bien aimées.
Ben, j'ai eu plusieurs Mercedes, j'ai eu Jaguar, Cadillac, toutes sortes d'affaires, mais ça me coûtait rien. Les Mercedes me coûtaient 1 500 $ par année.
Excuse-moi, là, moi, j'ai pas réussi à avoir ce prix-là pour une Mercedes, jamais.
Oui, mais c'est parce que c'était mon client. Mercedes, c'était mon client. Alors, dans ce temps-là, ben, il était poigné avec moi. Il m'a autant me voir en Mercedes que me voir en Chevrolet. C'était ça. C'est pour ça que j'avais toujours les premières Mercedes de l'année. J'avais toujours ça dans les premières. Et puis, bon, je passais pour un gars riche, mais j'avais pas d'argent, du cash. Je ne savais pas ce que c'était. J'avais pas le temps d'en dépenser. Je pouvais pas. Je l'impliquais.
J'étais obligé de l'accumuler.
J'étais obligé de l'accumuler. J'avais tout... Non, j'étais obligé de la... j'étais obligé de la mettre dans la compagnie pour avancer. Non, c'est drôle, mais c'est vrai comme ça.
Avec des moyens semblables, est-ce que tu t'es payé des maisons, des grandes maisons, des villas magnifiques?
Bien, pour moi, j'avais des bonnes maisons, mais pas rien d'extraordinaire. Et puis, encore aujourd'hui, non, j'ai toujours été raisonnable là-dessus, mais de toute façon, je voyage tellement que je ne suis pas chez nous souvent. Je regarde où on est en Gaspésie. Je suis là 4 mois et demi par année maximum.
Dans une maison à vendre.
Oui, est à vendre. Si vous voulez l'acheter, venez, je vais vous faire un
tu
mot.
Vends toujours tout, etc. Écoute, une dernière
Oh.
question avant qu'on se quitte, plutôt avant que tu retournes au Mexique, comme d'habitude.
Oui.
Avec une telle réussite, es-tu vraiment heureux?
Oui, je suis content parce que, pas parce que je suis riche, je t'avoue honnêtement, je suis pas riche, mais je dépends. Ça me coûte rien pour vivre pratiquement. Si on regarde, on a visité 75 pays à date. Bon, une des raisons pour lesquelles on a tant voyagé, c'est que j'avais 15 compagnies d'aviation comme client. Alors, ça ne me coûtait pas un sou pour aller n'importe où. J'avais des compagnies comme Air France, BOAC, Air India, Air Canada, Canadian Airlines, en tout cas 15 compagnies. Quand je voulais aller à quelque part, j'appelais, puis vas-y.
Puis en plus, tu es tombé amoureux d'une femme qui était hôtesse de l'air et qui avait des billets gratuits. Tu as toujours eu tout.
Oui, mais je pensais pas à ça parce que je voyageais déjà dans le temps. Et puis Roland, ben, elle a été presque 30 ans avec Air Canada, alors ça nous aide pas mal.
Bonne santé. Bon retour au Mexique.
Ben merci. Tu peux venir même si ça te tente. On a de la place, on a deux chambres à coucher.
La semaine prochaine, pour une autre aventure. À la mise en onde, Jean-Sébastien, La Liberté. Bonne semaine.